Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol.
En fait, il ne faut pas oublier que ce produit est une plante. Ce n'est pas une formule chimique. C'est une plante, c'est la nature qui crée ça. Cette plante a des vertus. Alors là, on parle de l'addiction récréative depuis tout à l'heure, mais je peux te dire que la partie médicale, comment elle m'a aidé, mais c'est un truc de malade.
Mon invité est un philosophe qui n'a pas été beaucoup à l'école. Une célébrité qui ne connaît pas les réseaux sociaux, un amoureux de la nature qui ne pratique pas la langue de bois, un fumeur de cannabis qui ne fume plus, une grande gueule qui ne cherche pas les conflits, un artiste et un businessman français résidant en Patagonie qui se considère comme citoyen du monde. Je suis quelqu'un de normal, dit-il, et en même temps de super particulier. Je peux être en marge tout en respectant la page, je suis tout et son contraire et ça me va bien. Un interprète lyrique, baroque, de variété, qui se réinvente dans des styles hétéroclites et dont l'unité réside dans sa voix unique qui fait le lien entre tout ce qu'il est. Et on sait, nous, ici, que le rétablissement est un chemin vers l'unité au beau milieu de nos contradictions. Le suspense est à son comble, n'est-ce pas? J'imagine que vous avez reconnu depuis les mots Patagonie et interprète lyrique de variété, Monsieur Pani nous fait l'honneur de venir parler de sa vie et plus précisément de sa consommation de Delta 9 tétrahydrocannabinol appelé communément le THC, principal composant psychoactif du cannabis. On parlera aussi d'addiction aux crevettes et à la liberté, de passage à vide et de trous dans le bide, de parentalité, d'hyperactivité automédiquée, de destinée, de maladie, d'amour, de maladie, d'amour. Alors merci Florent d'avoir accepté cette invitation lancée sans aucune ambition de résultat comme souvent. Mais il faut croire que la vie a un petit faible elle aussi pour les bouteilles à la mer. Bonjour Florent.
Eh bien, quelle présentation. Bonjour, merci. Alors,
on peut pas fouiller dans ta carrière sans être inspiré.
Ah, c'est ça d'être un petit peu toujours open et de tout raconter.
Non, de tout raconter, mais bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la façon que tu as d'évoquer chaque sujet.
C'est pour ça que j'arrive à parler de tout, quoi, et à tout dire. Parce que j'essaye toujours de trouver la façon de le dire, la manière de le dire, qui fait que la personne va le recevoir et va l'accepter. Et ça va permettre le débat et d'aller plus loin, quoi.
Et on n'a pas l'impression que tu cherches la bonne façon de le dire parce qu'on a l'impression que ça sort de but en blanc, que c'est même pas passé par la case mentale.
Oui, oui, c'est... Je sais pas, c'est...
C'est inné. C'est un don, ça.
Ouais, c'est... Mais je suis accompagné.
C'est pour ça que je suis un peu étonnée quand tu dis à chaque fois, moi, je suis pas auteur, je laisse ça aux autres.
Ah non, et c'est compliqué, ça.
Oui, mais j'ai l'impression qu'on t'a convaincu presque que c'était le cas.
Non, c'est moi-même qui l'ai assimilé.
T'as décidé, ouais.
Oui, je sais ce que ça représente pour moi d'aller le chercher pour que ce soit au niveau que j'aime bien. Donc, quand je vois ce que les autres font, excuse-moi, je vais aller vivre autre chose et puis ils vont le faire pour moi, et c'est tellement mieux. Donc,
je comprends tout à fait.
Non, j'ai bien évalué ça. La musique, on n'en parle même pas. J'ai vraiment tellement pas de lien, je suis tellement pas musicien que je sais que l'écouter et la retranscrire en la chantant, mais l'instrument, la composition, rien à voir.
C'est assez drôle parce que c'est tout l'inverse de moi qui m'étais dit je vais laisser chanter ceux qui savent chanter et moi je vais écrire et composer puisque c'est ça que je sais faire. Et figure-toi que finalement, personne n'a voulu de mes chansons. je les ai faites.
Mais c'est bien.
Bah oui, c'est cool. Je vais commencer par la question que je pose à tous mes invités qui est de, justement, puisque tu ne réfléchis pas, de me dire qu'est-ce que c'est, sans réfléchir, qu'est-ce que c'est que l'addiction selon toi?
Oh, l'addiction, c'est quand on ne peut pas se retenir d'aller chercher quelque chose et quelque part tout le temps la même chose. Donc, quand tu aimes vraiment le sucre et que tu vas le chercher, tu vas tout le temps chercher un sucre qui te plaît bien et ça se répète et ça devient quotidien tous les jours, ben voilà, t'es addict. Mais bon.
On va bien s'amuser. Hein. Je pense que là, on a le client parfait. Ça va vite, c'est fort, c'est authentique, c'est parfait. Bon, tout est dit dans ton livre qui est sorti et que je n'ai pas pu lire parce que je t'ai justement contacté trop... Ça s'est fait trop vite, notre histoire.
Tu m'as présenté de telle manière qu'on dirait que tu l'as lu.
Oui, mais notre histoire, elle s'est fait ça a été trop vite entre nous, Florent. Et j'aimerais qu'on ralentisse un tout petit peu. Il est sorti aux éditions Fayard, c'est Pani, par Florent, coécrit avec ton ami et auteur Emmanuel Cosso-Mérade. Déjà, la couverture, la pochette du livre extraordinaire, cette photo avec toi qui est en train de fumer, voilà. Tu dis, on ne me verra plus jamais faire ce geste. On va revenir un tout petit peu sur ce pourquoi tu ne peux plus faire ce geste, sans s'y étendre forcément trop.
Non, bon, ça va, tout le monde
le sait.
Non,
mais ce n'est pas le sujet.
Donc, j'ai eu en effet un cancer du poumon. C'est vrai qu'après, tu ne te dis pas que tu vas reprendre et que tu vas repartir dans de la combustion. Donc, suite au traitement, déjà pendant les traitements, ça t'enlève l'envie et après, tu n'y repenses même pas. Mais non, cette photo, c'est vrai qu'elle symbolisait et elle symbolise une intimité. C'est-à-dire que quand tu me connaissais et que tu rentrais et que tu me côtoyais, il y a un moment, forcément, tu me voyais avec cette attitude. Parce que, le cannabis a fait partie de mon quotidien et fait partie de mon quotidien naturellement. En fait, j'ai une nature qui aurait tendance à être un peu nerveuse et un peu tendue. comme diraient certains, t'es tendu. Et Dieu merci, j'ai un jour rencontré le cannabis qui m'a détendu, qui m'a calmé, qui m'a recentré et qui m'a permis de faire tout ce que j'ai pu faire et tout ce que je fais tranquillement, gentiment, sans m'énerver. Et pourtant, il y a beaucoup de quoi. La vie, dernièrement, partout, tu fais, putain, t'es dans une bagnole et tu dis à Paris et tu fais, waouh, il faut vraiment que tu travailles.
Surtout quand tu viens de là où tu
es. Et oui, ça fait un grand choc.
un petit choc.
Mais ça aide, hein, en même temps, c'est un vrai apprentissage. Tu te détends, tu te calmes et tu te fais.
Ah, c'est un challenge, c'est une épreuve, moi, je trouve, à chaque fois de venir. Ouais, parce que je viens de déménager un peu en banlieue.
Ouais, moi, je vis à 50 bornes et je prends ma voiture, donc j'aime conduire. Et là, tu fais, waouh. Quand même, c'est ardos, quoi.
Ouais,
tout
ouais.
est compliqué. Alors là, on parle que de la route.
Oui, voilà, c'est ça. Ça t'a permis. Tu dis quand même que ça t'a permis aussi d'être plus dans le contact, la communication. Il y avait quelque chose, il y avait une timidité.
Ouais, non, ou une sorte d'égocentrisme, truc où tu t'es branché sur toi-même et pas assez ouvert aux autres. Et en fait, ça a été ma grande découverte, c'est d'un seul coup de m'ouvrir sur les autres, de les comprendre de mieux en mieux, d'avoir un super scanner de personnalité, donc de détecter très vite les gens en face de moi, les bons et les mauvais, et de savoir qu'il fallait passer du temps avec les bons et s'éloigner des mauvais, donc... toutes ces lectures, tout ce que ça provoquait en moi, en fait, ça m'a vraiment permis d'être vraiment moins con. Donc, c'est spécial. À partir de là, quand tu prends conscience de ça, alors, il y a un paramètre qu'on doit aborder tout de suite, qui est le paramètre de la jeunesse. Et moi, j'ai la chance, je vous raconte une expérience que j'ai commencé, j'avais 20 ans. J'étais formé. En plus, j'étais monté à Paris à 15 ans. Je vivais des expériences très particulières avec les gens que je côtoyais à 16-17 ans, qui, eux, étaient à l'héro, se piquaient. Et moi, je tenais les garrots et je les voyais se détruire et je regardais les résultats. Je disais, mais ce truc-là, j'ai jamais de la vie.
C'est pas ça que
je veux. Mais, donc, j'ai eu la chance d'apprendre en spectateur. Et il n'y a qu'au bout de toutes ces années qu'il y avait un truc qui restait toujours un peu dans le paysage. Dans le fond, c'était les moments où les mecs fumaient des joints et se mettaient à pisser de rire. Pour des conneries. Et c'est vrai que ça te donnait quand même envie à ton âge de dire « Putain, j'aimerais quand même bien me la vivre comme ça, comprendre un peu mieux le délire. » Et c'est vrai que c'est ça qui m'a amené à essayer de fumer une clope, parce que je fumais même pas de clope, tu vois, jusqu'à 20 piges. Et puis après, avec la clope, essayer l'herbe. Et j'ai mis quelques années avant que l'herbe me fasse quelque chose.
Ah ouais ?
Oui, moi, pendant au moins un an et demi, je fumais, mais ça ne me provoquait rien. Et un jour, j'ai fumé un truc qui m'a, expliqué
herbe.
Qui était Raoul, je peux te dire que là j'ai compris. Et à
tu
partir
t'es dit
de là,
c'est ça que je veux.
Oui, enfin disons que après il faut que tu saches aussi l'encaisser. Et c'est vrai qu'avec ma nature, d'un seul coup, je me suis rendu compte que ça me positionnait comme je m'étais jamais imaginé. Alors, je suis allé le rechercher pour essayer de comprendre encore plus cette sensation et de voir. Et ça m'a tellement servi que oui, tu deviens addict parce qu'à un moment, tu fais putain, quand je ressens ça et quand ça m'ouvre comme ça et que je vois tout et que j'ai des yeux de mouche et des oreilles qui prennent tout et qui analysent vite et bien et puis ping, qui renvoient les balles et tout ça à une vitesse où tu te dis, mais même toi, t'es épaté.
En fait, c'est, l'addiction, c'est la rencontre entre un produit, une personne et un moment. Donc, toi, ce produit à ce moment-là, avec tes gènes à toi et ta chimie de cerveau, ça a créé quelque chose d'exceptionnel.
Ah ben, ça m'a... Là où j'ai vu beaucoup de mes amis devenir un peu teubés et aller dormir, moi, d'un seul coup, ça m'a réveillé, ça m'a speedé, et ça m'a amené dans d'autres découvertes, mais avec justement le discours qui va avec et qui peut motiver, qui peut,
bien sûr,
ou qui peut aussi te raconter ça très clairement en assumant cette histoire-là sans en avoir peur. Et donc, en face de toi, on t'écoute et on finit presque par comprendre.
Bah, on comprend, ouais, carrément. Parce que là, par exemple, vu que tu fumes plus, donc tu prends des capsules, des gélules, c'est
ouais,
ça.
Je prends des gélules. Là, par exemple, j'ai des doses de THC.
Mais t'en as tout le temps.
T'as
tout le temps du THC là dans ton sang. C'est-à-dire par exemple.
Normalement, oui.
Normalement, c'est... ça fait effet tout le temps.
Normalement, si je fais bien mes cycles pour être comme il faut, comme j'aime, pour arriver à assumer telle ou telle situation et à percevoir ce que j'ai besoin de percevoir, parce que en fait. Moi, et puis alors là, en ce moment, c'est de pire en pire, je suis toujours relié à la rencontre, à l'humain. Et donc, je me fais beaucoup brancher dernièrement, de plus en plus. Et il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille vite et que je comprenne bien les situations. Il ne faut pas que je perde pied face à n'importe quelle situation. Là,
on l'a vu là dans l'ascenseur en arrivant. Et tout de suite, les gens te disent, te regardent avec des grands yeux. Bravo, bravo.
Et là, tu les regardes et tu les vois rougir. Tu les vois impressionnés et tu sais que... Bah oui, en même temps, écoute, j'étais là quand t'es né.
Oui, c'est ça. Non, mais The Voice, c'est-à-dire les gens, ils tournent dans leur salon tous les samedis soirs, c'est quelque chose.
C'est un ensemble.
Aussi.
C'est un ensemble, c'est ce qui fait la caractéristique de notre activité.
Non, mais The Voice, c'est particulier parce qu'en plus, The Voice Kids, il y a toute une génération d'enfants.
Moi, je n'ai jamais été à Kids, les Kids, ils ont regardé The Voice.
Voilà.
Donc, bien sûr que ça véhicule, ça provoque des choses.
Ouais.
Donc, nous, on est des messagers et avec cette voix, ce véhicule, on peut vivre des choses extraordinaires et c'est ce qui fait, c'est ce qui donne envie à beaucoup de gens d'utiliser ce véhicule pour voir s'ils peuvent devenir ces messagers que les autres écoutent et regardent et ont envie de côtoyer ou d'admirer. Et donc, c'est vrai que c'est agréable de sentir que, depuis 35 ans, un peu plus même, tu as cette fonction. Et finalement, ces messages, ils ont dû arriver quelque part parce que quand tu vois les réactions, tu fais « bon... » Mais même moi,
T'es étonné encore.
Ouais, je suis encore étonné. Puis je sais d'où tout cela vient. Alors j'essaye de rester finalement assez neutre pour ni faire une crise d'humilité, ni me la péter. Donc tu fais.
Parce que les crises d'humilité, il y a un petit côté, je me la pète.
Quand on dit trop d'humilité, cache la prétention.
Exactement. Exactement. Le sujet, il est hyper vaste parce que, quand même, je veux savoir, est-ce que. Finalement, tu n'as pas été diagnostiqué. Aujourd'hui, il y a plein de troubles, on va dire, comme le trouble déficitaire de l'attention. Aujourd'hui, on donne à des enfants des amphétamines. On se rend compte que les gens qui prennent de la cocaïne ou qui fument des pétards ont souvent ce trouble-là. Et que si ils avaient été diagnostiqués plus tôt, ils n'auraient pas eu besoin de s'automédiquer comme tu l'as fait. Mais toi, en fait, ce qui est épatant par rapport à tous les invités et par rapport à mon expérience, c'est que l'addiction, elle a aussi comme critère la souffrance et les conséquences négatives sur ta vie. Et toi, donc il y a l'addiction, puisque tu ne peux pas t'en passer, mais on dirait qu'il n'y a aucune conséquence négative.
J'existe avec une activité qui permet tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai cette liberté, puis je me la suis vraiment offert, parce que tu vois, là j'arrive ici, je suis tout seul, et j'ai pas de personne autour de moi, je suis pas la vedette ou la star accompagnée, et je suis totalement libre, et je prends mes décisions, et je fais ce que je dis. Et donc à partir de là, je me balade, et je fais mon petit bonhomme de chemin, avec cette addiction qui me permet quand même d'avoir des projections et de l'imaginaire que tout le monde ne peut pas avoir et ne peut pas mettre en application. Et c'est un petit peu ce que je recherche. Donc ça peut être dans une création d'un spectacle, ça peut être dans une création d'un album, écouter des chansons, mais ça peut aussi être dans un mode de vie, selon les opportunités. Alors c'est vrai que moi, j'ai une grande chance, je rencontre ma moitié il y a 30 ans, et elle vient d'un endroit hors du commun, qui va bien aussi avec, avec ce produit qui peut te permettre d'avoir encore plus d'hypersensibilité. Donc, tu te le prends comme ça et tu te dis, putain, si
c'est
je
pas
peux,
le destin, ça.
Si je peux. Ah, mais bien sûr. Mais c'est le destin, c'est la chance. Et après, justement, quand tu réalises
la
ça.
La chance et le destin, c'est.
Oui, enfin, mais oui, ça fait partie.
C'est pareil.
Oui, mais il y a des destins de merde.
Non, mais le hasard, c'est.
Il y a pas. Oula, putain, là, c'est vraiment un manque de chance. Donc, là, tu fais, il y a quand même de la chance.
Einstein,
mais après,
disait,
tu vas la chercher, tu vas la construire.
Non, le hasard, c'est le bon Dieu qui se promène incognito, disait Einstein. Il y a comme. Je pense pas qu'il y ait de destin de merde. C'est ce qu'on en fait.
Oui,
c'est ce qu'on
peut-être, en fait. Peut-être, mais il y a des choses. Oui,
peut-être que c'était mal parti. Moi, j'aimerais qu'on commence par l'enfance, mais c'était pas super bien parti au début.
Mais c'était pas mal parti. Parce que moi j'étais cool.
T'étais cool, hein?
Mais oui, j'ai toujours été cool.
Ouais, t'étais cool ou t'étais stressé, faut savoir.
Non, mais j'étais un hyperactif. Donc j'étais un môme qui n'arrêtait pas de chercher une connerie à faire.
Il y a une quête déjà, une quête de la connerie.
Ouais, j'ai toujours bien aimé faire le con et aller embarquer les gens à dire des bêtises et à vivre des bêtises, mais pour rire. En fait, je crois que j'aime rire.
Ouais, t'aimes rire.
Et donc, j'aime rire, j'aime la gaieté de la vie. Et puis, je vais chercher, si je peux trouver des trucs qui sont un peu plus fun, je ne vais pas me gêner. Après, tout ce qu'on se raconte a forcément progressé.
Bien sûr.
J'ai eu un moment de ma vie où j'étais très dans la consommation du joint qui fait 2 heures. Donc, tu le prends, tu montes là, puis 2 heures après, tu es reperdu. Et hop, et tu vas rechercher ton pétard. Et si tu fais jour et nuit, tu peux avoir fumé 20 pétards de suite.
Donc, il y a eu ce côté négatif.
Mais
quand
ça, c'est quand tu es jeune. Quand tu ne sais pas.
En fait, c'est parce que tu as persévéré que tu as réussi.
Oui, bah alors peut-être j'ai passé tout.
Il y en a qui arrêtent avant.
Mais il y en a plein et Dieu merci, hein, parce que c'est pas la bonne. Moi, justement, mon parcours, il m'a permis avec le temps de doser et de gérer le dosage. C'est pour ça que je peux bien vivre sur la distance les événements parce que je suis open pour tout ce qui peut se présenter et cool. Je ne suis pas énervé pour un truc, pour un oui, pour un non. Et
un addict qui dose, c'est carrément miraculeux, tu sais ça. Parce que l'addict, par définition, ne sait pas doser.
En fait, il ne faut pas oublier que ce produit est une plante. Ce n'est pas une formule chimique. C'est une plante, c'est la nature qui crée ça. Cette plante a des vertus. Alors là, on parle de l'addiction récréative depuis tout à l'heure, mais je peux te dire que la partie médicale, comment elle m'a aidé, mais c'est un truc de malade. Elle va parfaitement avec ses protocoles de chimio. Quand on t'envoie du jus bien pourri qui défonce toutes les cellules, Dieu merci, elle défonce aussi les cellules cancéreuses, mais toutes les autres, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, tout ça est à bas. Et puis surtout la gerbe qui te monte. Le cannabis, il t'enlève la gerbe, il te donne l'appétit et il te fait dormir. Les 3 trucs que ces produits t'enlèvent et te proposent. Accompagner un traitement médical avec ces produits, personne ne m'a contrarié. Hein. Je l'ai dit à tout le monde, hein. Ils m'ont tous regardé en disant « Vous avez ce qu'il faut ?» Je dis « Oui, vous inquiétez pas, je gère. » Mais il y a d'autres pays qui le font, ici ils ne le font pas. Mais c'est en études, je sais, mais je ne vais pas attendre les études parce que moi je suis en train de prendre dans ma gueule. Alors, je vais gérer cette période qui est assez… Alors là, pour le coup… ce THC, ce cannabis qui t'envoie un peu dans les étoiles, est pas pour tout le monde. Mais par contre, quand tu prends des produits, il peut être vraiment pour tout le monde. Parce que les produits te défoncent tellement, selon ta nature, tu vas le prendre plus ou moins fort. Mais le cannabis, il va te mélanger,
Veux dire pour ceux qui sont en chimio,
il va brouiller les
ça
pistes.
Marche pour tous les gens qui sont en chimio.
Et oui,
d'accord.
Comme il brouille les pistes dans tes sensations, tu vas pas le rattacher au produit, tu vas le rattacher à ce plus que
d'accord.
Tu t'es apporté,
bien sûr.
Qui te change un peu ton. Après, il y a des gens, faut même pas qu'ils le touchent, hein, parce que ça les rend parano, ils deviennent malades, et il y a beaucoup. On parle de pouvoir utiliser ce produit Après, on parlera aussi des conséquences de l'interdire, parce qu'il y a un certain moment, tu as envie de regarder, tu regardes tout ça en disant, putain, depuis le temps qu'on vous l'explique,
il va falloir arrêter. Ok, il est interdit, mais dans ce cas-là, interdisez aussi le pastis dans les commissariats.
Oui, ça c'est encore une autre... Mais bon, au-delà de tout ça, les interdits ne fonctionnent pas. Et il y a tellement d'étapes où à chaque fois c'est la même et c'est toujours la surenchère, à tous les niveaux.
Le souci là aujourd'hui, c'est qu'on ne fume plus justement la plante telle que tu le dis. Elle n'existe plus, on fume des produits tellement transformés qui sont tellement puissants et addictifs. Il y en a, c'est des drogues dures.
Oui, bien sûr.
Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Toi, peut-être tu as accès à des feuilles de chambre parfaites.
À notre époque, il y avait déjà cet héros qui fait beaucoup moins de mal maintenant qu'à l'époque. À l'époque, quand les mecs étaient vraiment à l'héros, moi, j'ai vraiment vu des mecs en déchéance totale, tu vois. Donc, ça a cette incidence, ça peut avoir cette incidence. Et aujourd'hui, en effet, avec ces interdits, parce que je pense qu'on libérerait les choses, on ouvrirait et on gérerait pas mal de tous ces interdits, on aurait d'autres solutions. Il y aurait toujours forcément des jobards qui vont aller s'auto-détruire et aller dans des trucs, à prendre des choses qu'il ne faut vraiment pas prendre. Mais quand même, dans les grandes lignes, si on le gérait et si on légalisait en effet ce cannabis, déjà, il y a pas mal de petits larcins de délinquance, de bastons, des mecs qui se tirent dessus, ils ont 15-16 ans. Et à un moment, tu dis, attends, ces mecs-là, ils ne se promènent pas avec des kilos de coke. Ils ont forcément dealé que de la beuh et ils sont déjà en train de se dézinguer. Et ça va, la police elle-même te le dit, si on pouvait ne plus s'occuper de ces cas-là, ces trucs, et laisser la récréativité et puis même l'utilisation médicale, comme ça on libère tout ça. Ça libérerait beaucoup le terrain et on s'occuperait des cas plus compliqués et plus difficiles.
On vient d'avoir un épisode justement avec David Wimberger qui est acteur à la Mille des Cas et donc lui qui nous explique un petit peu pourquoi pas légaliser parce que, bon, il faudra que tu l'écoutes. Pour ce qui est des effets, on va dire, de cette plante, c'est vrai qu'ils ne sont pas les mêmes chez tout le monde. Personnellement, j'ai une passion vraiment pour le cannabis, mais j'ai dû m'y refuser parce que je pouvais devenir obèse. Apparemment, quand on fume beaucoup, il y a plus ce truc-là.
Moi, je fume plus beaucoup, mais je grossis. Surtout qu'en plus, les gélules, elles t'ouvrent l'appétit.
Ah ouais. Moi, c'est immédiat. C'est-à-dire que je passe du sandwich, mayo, tout ce qui trouble, et derrière, c'est le sucre. Et après le sucre, j'ai encore faim, mais de salé. C'est comme si, j'ai pas mangé. C'est vraiment le poisson rouge dans son bocal. Toutes les demi-heures, c'est genre, qu'est-ce que je vais pouvoir bouffer?
D'accord. Mais bon, quand même, tu le prends plus aussi souvent. Mais si un jour, à un moment, tu dis, oh tiens, ça fait longtemps.
Ah oui, peut-être. Mais moi, j'ai arrêté de fumer la cigarette il y a un an. Et donc, moi, je suis extrêmement sensible à toutes les substances. Je ne pourrais pas fumer du pétard pur. Ouais. Mais j'ai tiré sur une latte de pétard CBD, c'est pas mal.
Ah oui, CBD, c'est...
Non, mais c'est... je veux dire pétard, weed, et CBD à la place du tabac.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est pas mal.
Ouais, je fumais avec du NTB à l'époque.
Ah ouais.
Ouais, la cigarette... c'était des plantes, d'ailleurs. Elles sentaient la beuh. Hein, t'allumais une cigarette de NTB.
Ouais,
c'est comme si t'avais allumé un pétard et tu regardais tout le monde. Non, il fait rien, celui-là.
Mais en attendant, il y a plusieurs moyens d'ingérer donc, le THC. Donc toi, tu me dis en capsule, en gélule. On peut aussi... il y a des moyens topiques, donc des crèmes. Et il y a aussi... Alors celui-là, pour moi, je ne le conseille pas. En plus, nous, on est quand même subventionnés par la Ville des Cas. On va arrêter de faire l'apologie non plus. Mais quand même, moi, j'ai pris des space cakes et je crois que c'est mon plus gros trip. Et pourtant, j'ai pris de l'ayahuasca. J'ai fait ayahuasca. C'était presque pire.
Mais
Sauf qu'il n'y avait pas la révélation.
Non.
Non, j'ai vu des choses. Pourquoi? J'ai écrit tout un film.
Ayahuasca, c'est des...
C'est les racines. Non, c'est presque... il y a les peyotes, les champignons. Ayahuasca, c'est la racine pas loin de chez toi, hein. Pérou.
Ah ouais. Ah d'accord.
En forêt amazonienne?
Non, moi j'ai jamais été faire ces expériences. Et puis bon, après, quand t'es père de famille, ça devient plus compliqué.
Non, mais c'est une expérience mystique et très spirituelle. Moi j'y étais pour une raison précise et j'ai l'impression, honnêtement, aujourd'hui, après un an, ça fait qu'un an que je l'ai fait, que ça a été comme une thérapie. C'est comme si j'avais fait 20 ans de thérapie en 2 heures. Donc c'est quelque chose de très puissant et ça, aujourd'hui, je me rends compte de l'intégration, ça a guéri des choses en moi sans que je fasse rien.
Ah super.
Donc, Donc la chanson N'importe quoi, on est d'accord, c'est ce que tu viens d'expliquer un petit peu, c'est quand tu voyais des amis se défoncer à l'aéro, c'est ça? Cette
oui,
première
oui,
chanson
oh,
que t'as écrite,
tu sais, n'importe
c'est ta
quoi,
première je... chanson parle de drogue en fait.
Ben, elle parle de quelqu'un qui en moment se fait un peu de mal quoi, et les autres spectateurs, le narrateur le regarde en disant mais... T'es vraiment en train de glisser, de déraper, mais ça peut être une addiction à la défonce, ça peut être une addiction à l'alcool, à la déprime, ça peut être, ça pouvait
c'était quoi,
être.
En l'occurrence.
Comment?
C'était quoi en l'occurrence?
Non, c'était un mélange de tout.
C'est un ami quand même, c'était vraiment une histoire
mais
vraie.
Mais non, c'était moi, c'était mes proches, c'était tout le monde.
Ah.
Bah, y a un moment, moi, j'ai toujours fait mon autocritique aussi, donc même très tôt, je voyais bien que justement de consommer
si
vraiment
te parles
beaucoup
à toi
de.
Et tu te dis, tu crois que je vais rester sans rien dire?
Mais oui,
c'est merveilleux.
C'est possible.
Wow,
mais
j'adore.
En même temps, j'ai aussi d'autres camarades qui pouvaient avoir des problèmes plus graves auxquels je rattachais pour la chanson aussi. Hein. J'ai mon pote Riton à l'époque. Alors lui, il le raconte même dans son...
Tous les Ritons se défoncent, hein, de toute façon, je suis désolé.
Alors celui-là,
et est-ce
on
qu'il est régisseur
gamin
ou pas?
Non, il était
tous
acteur.
Les Ritons sont régisseurs.
Il était,
ah,
il
c'est
était
lui.
Acteur.
C'est lui.
Et c'est vrai que quand on a passé un moment de vie ensemble, qu'on était potes et qu'on se voyait tous les jours, bah lui, il avait, on était obligé même de le cadrer en disant bon, allez, que les week-ends, parce que la semaine, ça, c'est plus possible. On était quelques copains et on cadrait, quoi, parce que voilà, il avait ce péché mignon. Et il a fait même une pièce là-dessus où il explique son addiction et que ça lui a foutu en l'air sa vie, sa carrière. Et il a fait des trucs sur des tournages alors qu'il était. Putain d'acteur. Mais bon, donc c'était mon pote Riton aussi dans la chanson. C'était la période où on se connaissait, où on vivait en communauté tous, on se voyait tout le temps. Et donc à un moment, tu t'inspires de ceux qu'il y a autour de toi, puis de toi-même. Et parce qu'à un moment, t'es pas un saint à l'extérieur. Mais tu peux avoir justement au fond de toi une voix qui te parle et qui te chante. Et qui te dit que tu fais n'importe quoi.
Tu fais n'importe quoi, c'est une chanson. Moi, j'écoute ça, j'étais vraiment petite. Je me rappelle vraiment, d'abord j'étais très amoureuse de votre couple, toi et Vanessa Paradis, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup rêver à nous. Moi j'étais dans la team Vanessa Paradis, j'ai eu Elsa juste avant, je ne savais pas qui, sur quel pied danser, mais à partir du moment où on était avec toi, le bad boy,
un problème de génération.
On avait très envie d'être Vanessa quoi, et en fait je me souviens que j'étais là à me dire, oh, ça a l'air horrible cette drogue là, il ne faut pas y aller. Non mais tu vois, je me disais, ah je vois trop, il a un pote qui est dans la drogue, c'est pas, tu vois, j'avais vraiment pris ce truc là comme une prévention. Alors apparemment elle a pas duré longtemps parce que moi à 22 ans j'étais défoncée, mais quand même ça m'a aidé jusqu'à 22.
Oui mais bon oui après bah t'as commencé à faire quand même tes expériences quoi. Bah oui, il faut aller tester, regarder ce qui se passe, surtout quand t'es maintenant partout hein, mais j'allais dire surtout quand t'es dans une grande ville, mais maintenant même dans les campagnes.
Nice, hein. J'étais à Nice moi. Toi, t'étais Chalon-sur-Saône, c'est ça?
Non, moi, à Chalon, je suis parti. J'avais 10 ans.
Ouais,
donc
t'es...
après, je suis parti en Haute-Savoie. Voilà. Moi, je suis parti de Haute-Savoie, j'avais 15 ans et demi. Et je suis arrivé à Paris à 15 ans et demi.
Donc, tu voulais... on n'a pas raconté toute ta vie, parce que je veux que les gens achètent le livre absolument.
Vas-y.
Mais, et que ce n'est pas le sujet. Mais bon, en bref, quand même, tu prenais des cours de théâtre. Tu découvres à 11 ans, de toute façon, que tu as cette voix-là, cet organe puissant. Ta mère t'entend chanter. Tu vois dans les yeux de ta mère. Tu comprends dans les yeux de ta mère qu'il y a un truc de fou.
Ouais.
Et tu comprends que tu as ce super pouvoir-là et que tu vas faire quelque chose avec.
Ouais, enfin, je découvre. Je découvre quelque chose de particulier.
Chante du Lenormand, d'ailleurs.
Ouais, c'était sur une chanson de Lenormand, la première fois où je me lâche un peu et où je projette, où la voix sort et où tu découvres que finalement, tu peux chanter fort et haut. Et tu peux la tenir. Enfin, en tout cas, d'un seul coup, tu découvres un truc et tu te mets à le reproduire encore et encore pour voir jusqu'où il est capable d'aller, quoi. Et t'as 10 ans. Donc, mais... Bon, ça, c'était un don qui apparaissait, mais qui sautait aux oreilles, puisqu'il faisait du bruit. Donc, d'un seul coup, tu peux l'analyser. Après, il y a plein d'autres dons que les gens peuvent avoir. Ils mettent longtemps à les découvrir parce qu'ils sont, plus enfouis, ils sont plus cachés. Mais en fait, une des quêtes de la vie, c'est d'aller chercher son don,
ah,
chercher
c'est beau,
son point fort.
C'est beau. Bah, au moins, ça donne un vrai sens à la vie.
Mais bien sûr,
c'est
sûr.
C'est aller chercher ce pourquoi vous êtes fait, ce qui peut vous faire vivre. Mais je pense que ce n'est pas qu'ils sont enfouis. Moi, je crois vraiment qu'il y a deux façons de fonctionner. Soit on est préoccupé, tendu, tu vois, comme tu disais, tendu.
Ah, oui,
soit
oui.
On est inspiré. Inspiré, ça vient de in spiritum, ça veut dire le divin en toi.
Ouais.
Donc, tu deviens un canal. Et à ce moment-là, moi, je le ressens dans ma création. Il y a des moments où j'étais dans la défonce, dans le machin. Et ben, les choses ne viennent pas. Il y a quelque chose de très fermé. Et à un moment donné où tu es... En fait, totalement, comme dirait notre ami, aware. Non, mais tu vois ce truc-là. Tu as ce moment-là où tu dis, bah, en fait, je suis disponible à la création. C'est ça, être inspiré.
Ouais,
et toi,
ouais.
Quand tu découvres ça, peut-être que tu as tout un pan de ta famille, tu as aussi un moment. C'est des moments de vie comme ça où on est juste ouvert à ce qu'on est. Parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas du tout accès à ça, parce qu'ils sont tout le temps soit sous pression, tu as des parents qui veulent qu'ils travaillent bien à l'école, des parents qui... Tu vois ce que je veux te dire ?
Alors,
peut-être qu'on t'a laissé libre de trouver ça.
Ben, en fait, il y a ce mélange des deux. Même des trois. Ma nature profonde, mon contexte familial qui me laisse de la liberté, et puis cette découverte de cannabis qui me fait aller voir plus loin. Donc, d'un seul coup... Non, pas 11 ans. Mais à 11 ans, ça, c'est la découverte de la voie. Après, tu fais un parcours et c'est ce qui me permet de partir à 15 ans et demi. Partir à 15 ans et demi tout seul dans une capitale comme Paris, accompagné par ses parents, en débarquant à l'Armée du Salut à Ménilmontant, il fallait trouver les arguments quand même, il fallait l'expliquer.
Ils t'ont accompagné pour que tu puisses être pris en charge ici, c'est ça ? En fait, tes parents, ils t'ont accompagné tout le temps.
Tout le temps. Ils m'ont laissé, ils ont accompagné ma liberté.
Waouh, oh là là.
Non mais ils m'ont fait des. Non mais attends, mais parce que c'était, ils n'étaient pas là à vouloir m'imposer quoi que ce soit, jamais. Et au contraire, d'un seul coup, il y avait ce truc, cette voix qui arrivait, qui provoquait tellement de choses que. Tu peux pas laisser quelqu'un avoir ça et puis le brimer et commencer à lui dire non, tu vas devenir médecin. Mais comme je te l'ai dit, j'avais cette nature. Donc la nature que j'avais, moi, à 14 ans, je t'expliquais comment il fallait que ça se passe. Donc j'étais.
T'avais écrit cette chanson juste après, d'ailleurs, qui s'appelait Laissez-nous respirer.
Mais il y a
quelque chose qui est de dire c'est pas parce que tu es plus grand, c'est pas parce que tu es plus vieux, c'est pas parce que tu es un politicien, c'est pas parce que tu es plus riche que tu vas me dire à moi quoi faire.
Il y a toujours des dominants et à un moment, il ne faut pas se laisser dominer.
Non. Et je pense que les dominés ont leur responsabilité. Parce que les dominés sont dominés parce qu'ils autorisent aussi cette domination.
Ah, bah de toute façon, c'est le principe animal. Hein.
Bah ouais.
Tu les vois, et nous, on est pire que les animaux parce qu'on a l'intelligence en plus et ça peut aller très très loin.
On a le vice, nous.
Mais
on a le vice.
L'humain, il a ce truc-là et moi, je vois toujours, tout le temps, partout. Hein,
partout.
C'est pas
ce milieu de la musique, moi, je l'ai vu beaucoup.
Le milieu de la musique, mais même quand je vais dans les fermes éloignées, je peux retrouver des choses. Donc, c'est l'humain. L'humain qui a ce truc-là et qui vient voir s'il peut prendre le dessus sur l'autre. Il y a des gens qui se mettent un petit peu à côté et qui sont ni l'un ni l'autre. Donc, ils sont ni des dominés, ni des dominants. Et ça permet de vivre un peu en marge et de pouvoir profiter un peu plus de la vie. Alors après, il y a tellement
de
paramètres.
Tu te mets dans cette catégorie aujourd'hui ?
Oui,
mais
j'ai toujours été, moi. J'ai toujours été en marge. Donc,
en marge en respectant la page. C'est très joli, cette phrase.
Eh oui, parce que tu dois respecter les autres. Tu dois comprendre les
codes.
Parce
que tu dis même tes enfants.
Juste, tu ne te mets pas d'un côté ou de l'autre.
Pour tes enfants, tu dis que d'abord, tu aimerais qu'ils viennent te voir s'ils ont envie d'essayer. Bon, tu me diras si ça a été fait ou pas, parce que maintenant, ils sont grands quand même.
Oui, ils ont essayé, ce n'est pas pour eux.
Et puis surtout, de dire que tu as le droit de faire ce que tu veux du moment que tu n'enfreins pas les règles et que tu es heureux. Moi, je trouve que c'est l'éducation parfaite.
Oui.
Bah oui, c'est facile à dire.
Mais ça ne nous appartient pas.
Ouais.
Donc,
les enfants ne nous appartiennent pas.
Bah non. Nous sommes les arcs, ce sont les flèches, dirait Khalil Gibran. Et oui, ça ne nous appartient pas. Et c'est un moment, on ne peut même pas imaginer ce qu'ils vont vivre. Alors, de toute façon, il y a un certain moment, il faut juste leur filer des codes, leur donner des clés s'ils ont besoin.
Et encore, je ne suis même pas d'accord pour les clés, parce que moi, les clés des autres, j'en voulais pas.
Non mais ils les prennent pas. Hein.
Ouais,
mais
ils les prennent pas.
Mais elles restent quand même.
C'est des graines.
Elles restent au fond. Ils oublient pas et un jour, parce que en plus, toi, tu donnes des clés par rapport à tout ton vécu. Il y a tellement d'étapes à passer. Non, c'est.
Il y a pire parce que donner des clés, bon, c'est déjà. Il y a ceux qui veulent vraiment donner les portes. Alors ça, c'est chiant.
Ah,
les parents qui disent, tu vas prendre cette porte là et celle là.
Non.
Non mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je suis même contre l'école, moi. Non mais j'aurais aimé avoir savoir ce qu'était le unschooling il y a 10 ans pour mon fils qui a 13 ans maintenant, parce que bon, il a vraiment une phobie scolaire. Mais vraiment, je réalise qu'il y a des gens qui n'ont pas scolarisé leurs enfants et je me rends compte de comment leurs enfants ont évolué. Je suis vraiment stupéfaite.
Oui, oui. Bah,
mais vraiment, comme si
le grand exemple aujourd'hui, c'est Billie Eilish, ouais. Où elle n'est jamais allée à l'école et la gamine, elle est juste remplie de talent.
Et t'as vu la famille.
Oui, c'est spécial. Mais bon,
moi, j'aime beaucoup.
C'est des cas après.
Camille fait ça avec ses enfants aussi.
Qui ça ?
Camille, la chanteuse.
Ah oui, mais non, mais c'est possible. Moi, mon môme, il n'a pas été à l'école avant 6 ans, 6, 7 ans.
Déjà, c'est bien.
Oui, parce que nous, on voyageait. Et surtout, on voulait voyager. Donc, on ne voulait pas se retrouver coincé par un système scolaire. Sauf qu'un jour, on s'est rendu compte qu'il avait besoin des autres.
C'est une bonne raison.
Un jour, il y a des amis qui sont arrivés avec leurs enfants. Ils sont venus passer le week-end. Et quand les enfants sont partis, il s'est accroché à un de... Mais il ne voulait pas qu'ils partent, quoi.
Oh non.
Et on l'a regardé faire. Et on s'est regardé avec ma femme en disant...
Il lui faut des copains.
Ouais, là, on est en train de faire une grosse connerie. Mais le lendemain, il était à l'école. Hein.
Mais non, mais c'est une bonne raison. Parce qu'il y en a qui disent... Moi, souvent, on me dit, oh, mais il faut un cadre. Non, un enfant n'a pas besoin de cadre et tout. C'est pas vrai. L'enfant peut aller à l'école de la vie. Et l'école de la vie, ça peut être des copains aussi. Avançons sur notre sujet. La Patagonie, ça me fait rire. Tu dis, c'est ton antidote au succès et à la notoriété. Alors, je trouve ça génial. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une antidote et que c'est un poison, le succès et la notoriété?
Ça peut être pesant. Il faut après, d'un seul coup, tu te retrouves... tu dois te parquer, tu dois te ranger. Si tu vas dehors et si tu te mets dans la foule ou au milieu des gens, tu peux te retrouver, surtout aujourd'hui avec ce téléphone, tu peux te retrouver quand même à passer beaucoup de temps à dire bonjour, à dire merci et à faire une photo. Et donc, mais c'est parce que ça a eu cette évolution. Mais c'est vrai que la notoriété entre ce concret du quotidien, si on va dans la rue, déjà tu sais que tu restes dans ta voiture et puis tu vas dans des points fixes et puis tu traînes pas à pattes au milieu des gens. Et puis, donc ça reste viable, mais c'est vrai que d'être toujours dans une sollicitation médiatique ou dans un truc où tu passes à la télé, où tu es tout le temps un petit peu par là, il y a un moment, ça doit faire du bien aux autres aussi que tu ailles voir un peu ailleurs. Tu vois, donc moi, ça me fait du bien, mais quand j'en vois un trop longtemps, il commence à me fatiguer.
C'est
donc je ne veux pas faire aux autres.
Mais enfin, le public, c'est genre, oh, on le voit trop, lui. Ou alors, c'est, il devient quoi, lui, on ne le voit plus. Et c'est voilà. T'as deux phrases, hein, de toute façon.
Bien sûr, bien sûr.
J'ai vu mon père faire, oh, on ne la voit plus, ta copine, machin. Oh, on la voit trop, ta copine, machin.
Et
c'est
puis
que
alors,
ça.
T'arrives, il faut, ça fait longtemps.
Ah, ça fait longtemps.
Ah, il est cool, il est machin. Puis au bout de la quatrième fois, il dit tout le temps la même chose.
Est-ce que c'est une addiction, le succès, la notoriété, quand même? Parce que, par exemple, je sais qu'à un moment donné, tu es quand même dans le creux de la vague après un succès. Bon, là, on va parler de mon idole, de mon chouchou qui est Jean-Jacques. Jean-Jacques te tend la main. D'ailleurs, j'ai vu que c'était sous un pseudo, en fait, Sam Broski. Ah ouais, mais je ne savais pas.
Il m'a tendu la main du bout des doigts.
Du bout des doigts.
Mais c'est vrai que
avec,
il m'a tendu
si
la main.
Si tu veux m'essayer, et je trouve en plus que c'est un titre qui ressemble, encore une fois, à une drogue. Si tu veux m'essayer. Bah oui.
Non, c'était beaucoup plus charnel que ça. Ouais. Hein, si tu veux m'essayer.
Bah oui, mais c'est pareil. La sexualité est une drogue.
Oui, ça pouvait, mais bon, c'était. C'était pas le sujet. C'était pas pour essayer une nouvelle herbe.
Mais est-ce que ça t'a rendu malheureux quand ça marchait plus, justement? Est-ce que ce succès, cette notoriété, manque comme une drogue à un moment?
Je pense qu'à un moment, quand on part là-dedans, on est en quête d'accéder à ce que ça peut provoquer au regard des autres dehors, à ce côté, ils m'ont reconnu, les premiers autographes, c'est impressionnant ce que ça provoque. Et donc, on y va. Puis après, on rentre dans la course. Donc, on est en compétition, tu sais comment ça se passe. Donc, tu cherches... moi, j'avais commencé avec le cinéma, mais en même temps, le cinéma, c'était pas mon point fort. Donc, très vite, il y avait des choses qui me convenaient pas. Ce monde-là me plaisait pas. Et puis, j'arrivais pas, j'accédais pas au Graal. Donc, c'était toujours un petit peu en dessous. Et en effet, quand la musique est arrivée... Alors, j'ai eu de la chance. La première chanson a réussi à exister, mais...
Enfin, ça a été long. Il y a eu un forcing quand même par cette personne, c'était Gérard Louvain.
Oui, il y a eu un forcing sur la sortie.
Mm-hmm. Donc, après, ça a tout de suite marché parce que le public a aimé tout de suite.
Et oui, mais parce que justement, il fallait percer.
Il fallait passer les radios, là.
Ce filtre médiatique. Et ça faisait partie du jeu parce que ça n'existe plus, c'est plus comme ça, tout a évolué.
Et là, c'est quoi maintenant? Maintenant, il n'y a plus rien.
Ça a tellement évolué que là, je ne sais plus parce que. Parce que moi, je vois des mômes qui cartonnent, qui remplissent des endroits
et qui n'ont jamais passé la radio.
Et qui ne passent pas la radio. Donc, alors bon, c'est vrai que je ne suis pas non plus, donc je ne suis pas une référence. Je ne peux pas raconter ce qui se passe parce que je ne m'en occupe pas.
Ah, je t'ai fait dévier. Donc du coup, oui, ces autographes qui ne viennent plus ou alors ce manque-là et la compétition de voir qu'il y a d'autres gens qui réussissent et pas toi, c'est dur. Moi, en tout cas, je l'ai vécu. Moi, quand j'ai vendu 650 000 albums de mon premier album, ce qui est énorme,
ouais, c'est bien.
L'album d'après, quand t'en vends 40 000, tu te dis, ok, donc il y a 610 000 personnes qui ne peuvent plus me blairer. Ah, moi, je l'ai pris comme un désamour.
Ouais. Ouais, ouais, c'est un désamour.
Et surtout, ça veut dire qu'ils écoutent plus Rose, mais ils écoutent quelqu'un d'autre.
Oui, oui, c'est passé. Tu as été un phénomène
de
ça s'appelle un feu de paille. Mais
c'était pas un feu de paille puisque j'ai duré 5 albums.
Non,
mais
après,
ce succès-là
a été
un feu de paille.
Oui, mais parce que en fait, c'est le problème de ce métier. Nous, on a tous le même truc. On monte et on descend. Mm. Tout le monde monte et descend. Et ça prend 2-3 ans.
Mais c'est dans la vie aussi. C'est même pas que dans notre métier.
On est bien d'accord. Mais après, comme nous. On décide de tout, je dirais.
On décide de briller.
Notre entreprise, c'est nous-mêmes. Mm. Donc, il y a un moment, c'est nous qui pouvons aller et puis prendre le micro et puis chanter. Mm. Donc, oui, il faut de la musique derrière et tout. Mm. Il faut que tout ça soit produit. Mais en même temps, la matière première, elle est vivante et c'est nous. Et donc, à nous de trouver justement tout ce qui va pour nous accompagner, pour arriver à avoir, à pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre dans les bonnes conditions, comme on a envie.
D'ailleurs, c'est Jean-Jacques aussi qui t'a aidé à gérer mieux ta carrière parce que.
J'irais presque Robert. Parce
ouais,
que
c'était frère,
Robert le conseiller.
Son frère, oui.
Oui, c'est son frère.
C'est-à-dire que, oui, en effet, tu savais que tu n'étais pas. T'allais pas toucher de droit d'auteur, donc on t'a bien expliqué que là où tu pouvais gagner de l'argent, c'était en gérant toi-même, en produisant tes tournées.
Exactement.
Et en plus, j'ai vu aussi que tu produisais aussi de la laine d'alpaga.
Oui, non, mais ça, c'est des développements.
C'est mon animal
de ferme.
Préféré. Ouais. T'en as un?
Non, mais c'est des guanacos.
Ah, je connais pas.
Les guanacos, c'est un lama. Mais
c'est pas des alpagas du tout.
Si, si,
ah
ça,
ouais
ça devient un cachemire, un alpaga complet. Mais...
un alpaga complet.
Oui, parce qu'en fait, il n'est pas recensé pour ça.
Non, mais j'adore la tête de cet animal.
Ah oui, oui. Il peut même te cracher dessus. Oui, oui, oui. Non, c'est des...
Ils aiment bien cracher.
Ah, c'est des camels.
J'adore.
Donc, oui, ça ressemble, c'est presque une tête de dromadaire. Mais bon, et c'est sympathique. Nous, on en a plein, oui. Nous, on n'a rien du tout.
Oui,
il y en a plein.
Ça, il y en a plein, mais j'aime tellement cette philosophie. Justement, cette philosophie, c'est l'harmonie. L'harmonie avec la nature, une harmonie dans ta vie qui est de chanter, d'avoir une vie de famille, d'avoir la femme que tu appelles ta moitié, la nature avec tout ça. Donc en fait, on se rend compte vraiment que toi, tu es quelqu'un, un homme de l'équilibre, ce qui est tout le contraire des addicts en général. Donc tu as vraiment ce truc-là, en fait, toi, c'est vraiment précis, tu vois, parce que le titre de cet épisode, par exemple, je ne sais pas comment l'appeler, mais je voulais l'appeler un addict accro à la liberté, mais je ne trouve pas que tu sois addict, et j'avais envie de dire un hyperactif anxieux qui s'est cannabisé. Mais il y a vraiment ce truc-là qui est que tu as trouvé une potion, quoi, c'est très rare ce qui t'est arrivé à toi.
Mais,
il faut que les gens comprennent que c'est rare.
Oui, oui, je pense que... Mais t'inquiète pas, autour de moi, il n'y a personne comme moi.
Ben non, mais c'est important que les gens sachent qu'on ne fait pas l'apologie du truc.
Non,
non. Toi, t'as une harmonie dans ta vie. C'est-à-dire, t'as mis cette plante-là comme la cerise sur le gâteau, quoi.
Oui, ça m'a donné la perception. Ça m'a permis de...
Ça t'a ouvert les portes de la perception.
D'un seul coup, de te dire « Ah, mais attends, ça peut aller plus loin et ça peut être plus intéressant encore. »
Et plus intense.
Et plus intense, mais quand tu es un hypersensible, tu cherches que des choses intenses et t'aimes ce qui est beau, t'aimes le relief de la vie, tu le considères en plus en vieillissant que c'est pas si long et que finalement, tu peux avoir la chance de vivre plusieurs vies en même temps. Mmh. Parce que t'as pas de patron, t'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est pour ça que cette activité, ce choix d'utiliser un don qui peut être artistique et qui d'un seul coup à un moment où ça plaît, et je parle d'un moment parce qu'à la limite ça évolue de telle manière qu'aujourd'hui un mec qui chante vraiment finalement intéresse peut-être moins qu'un mec qui rappe parce que ça a aussi cette évolution. Quoique, quand il y a vraiment une voix hors norme, elle existe, elle prend sa place et elle reste. Donc à la fin, tu te dis, bon, tout ça, c'est de la chance. Il ne faut pas que je la gaspille. Il ne faut pas que je pense que c'est normal. Donc, je dois la respecter et je dois l'utiliser.
C'est Platini qui disait « Je dois rembourser à la vie ce qu'elle m'a offert.
» Oui, bah oui. Oui, quelque part.
Et, donc l'utiliser, quand tu dis utiliser, il y a le mot utile. Ça veut dire, en fait, il y a vraiment une histoire de mission. C'est quelque chose où tu sens que tu donnes aux autres.
Ben, je sens que...
C'est pas pour toi que tu le fais.
Ça doit nourrir quelque chose en moi, mais quelque part, j'ai une fonction.
Mais le don est circulaire, de toute façon, on donne pour recevoir.
Hein. Et c'est exactement ce... Ça doit être ce principe-là qui fait que ça paraît évident, et tu vas le faire, et tu penses toujours en disant, bon, j'ai une fonction, j'ai un truc, j'ai une mission.
Mais on a tous une fonction,
mais on a tous. C'est bien la chance que j'ai.
Non, mais je sais, mais moi donc, aussi, je l'ai trouvé. Non, mais je pense que c'est tant qu'on ne l'a pas trouvé, on peut être extrêmement malheureux, et c'est ce qui cause les burn-out, les dépressions aujourd'hui, et beaucoup.
Ah, alors, quand il y a des gens qui ne cherchent pas, et on parle donc, de l'imbécile. Alors, on parle de l'imbécile heureux. Il y a quand même pas mal de gens, et tant mieux hein, d'ailleurs, qui a aussi cette solution de gens qui ne pensent pas, qui ne se prennent pas la tête.
Imbécile d'une façon non péjorative, qui soit plus de quelqu'un qui ne mentalise pas, qui ne se pose pas trop de questions.
Oui, il ne se pose pas de questions et il n'y a pas d'ambition.
Je les adore.
Mais il y en a plein, il y a plein de gens, ils n'ont pas tout ça. Ils resteront à écouter, à regarder et à apprécier tout ça parce que ça va leur apporter des choses. Mais jamais ils s'imaginerait être dans un dixième, un cinquième
attention,
de tout ça.
Attention, on n'est pas Dieu et je pense que ces gens-là qui ne se posent pas de questions, souvent je me suis dit, je disais, ma mère est comme ça par exemple. Je lui disais, de toute façon, toi c'est imbécile heureuse, t'en as rien à faire, t'es heureux.
Oui, alors oui,
en
c'est
fait,
vrai
non,
que...
sa mission, c'est d'être ça.
Mais...
C'est d'être cette personne-là qui ne se pose pas de questions et qui va aider les autres à s'en poser.
Bien sûr.
Tu vois ?
Non, mais tout est complémentaire.
Toi, comme t'as dit, tes parents.
Mais alors, c'est vrai que ça peut être péjoratif de parler de l'imbécile heureux.
Voilà.
Mais parce que là, on va à l'extrême. Mmh. On est dans des extrêmes, on aborde des sujets où on parle d'expériences extrêmes. Mais tu as envie de dire, bah, dans l'autre extrême, il y a plein de choses de très possibles. Et il ne faut pas se pavaner de ce qu'on peut avoir et de la chance qu'on a pu avoir d'identifier plein de choses. Donc, c'est de l'expérience. Et de toute façon, à la fin, on termine tous pareil. Donc, tu peux te la raconter, tu peux tout ce que tu veux. Tu finiras, ça s'arrêtera. Et alors après, bon.
Moi, je ne crois pas, mais
chacun, OK. Oui, moi non plus. Moi, je pense que, justement, tout ce parcours sert à remplir et à nourrir et te permettra de partir dans les galaxies.
Ah, mais, toi aussi.
Mais écoute.
Ah, bon, on a les mêmes sources d'inspiration, alors je crois.
Non, mais il y a un moment quand tu commences.
Tu veux dire que tu es un être ascensionné ?
Non, je sais pas, j'ai pas cette culture-là. Mais je ressens qu'en effet, les choses viennent pas, elles ne sont pas là par hasard, comme on se disait à un moment. Mais en même temps, quand tu arrives à bien analyser et comprendre qu'il y a des choses qui sont pas normales, qui sont pas pour tout le monde,
chacun a sa place, en fait.
Voilà,
chacun
et que
toi, a la place qu'il doit être.
T'as géré ton truc et ça t'a amené là et ça t'a permis de comprendre si ça, bien sûr que ça doit avoir quelque part.
Oui,
quelque chose
pas...
d'un peu mystique et un peu spirituel, obligé.
Exactement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pas, comme tu dis, de pas rentrer dans une gloriole.
Mais
c'est
non,
à dire qu'en fait, c'est des choses qui, en fait, elles sont en toi et c'est pas grâce à toi, en fait. T'as
non,
eu cette
non,
chance-là
c'est comme ça.
D'être foutu,
juste
d'être volé
la seule
ça.
Chose, c'est que tu les ressens, tu les comprends et tu les utilises comme il faut.
Mmh.
Tu commences pas à partir, justement, comme on se dit, à te la péter ou à vouloir devenir un gourou.
L'humilité.
Et une forme d'humilité. Un truc qui te permet. Bah alors, des fois, on peut
t'as
aussi.
T'as un côté gourou, hein. Tu pourrais l'être, en fait.
Oui, mais ça, c'est un truc que je pourrais,
ouais.
que je pourrais pas faire.
Ouais.
Parce que quelque part, moi, mon discours, c'est de te dire.
Il faut pas de gourou.
Non, il faut pas te faire vampiriser par qui que ce soit.
Mais Dylan était comme toi, et pourtant, il s'est fait suivre par des milliers de hippies en croyant que c'était. Le gourou, ils voulaient tous faire comme lui. Ils disaient, mais lâchez-moi, je ne suis pas un
ouais,
gourou.
Ouais, ouais. Parce qu'il avait des vibrations qui dégageaient ça, plus certains mots et une musique, un peu une manière de la présenter qui, d'un seul coup, provoquait, en effet, pour certains, ce côté-là. Quoi.
C'est pas ta culture, toi, la folk américaine.
Ah non.
Pas du tout, hein.
Non, non. Non, moi,
Dylan,
je connais pas, non.
Parce que Free Willings, tu vois, ça veut dire en roue libre, c'est vraiment toi. Ça me fait vraiment penser à toi.
Oui, mais voilà. Mais moi, c'est le mot libre, c'est vraiment un truc que je retiens. Mais que j'ai naturellement. Et quand, en plus, je peux y penser, c'est pire. Je suis vraiment libre.
Ah bah tiens, peut-être le titre, ça pourrait être « Ma liberté de m'automédiquer ». Oh, tu vas m'aider à choisir le titre à la fin.
L'automédication, c'est des médicaments. Je ne prends pas de médicaments. En fait, moi, la seule médecine que je prends, c'est de la médecine chinoise et c'est des plantes. Donc, je suis qu'avec des plantes. En fait, c'est là où je suis super bio et je suis plus proche de la nature qu'on peut l'imaginer. Alors non, on l'imagine bien parce que la Patagonie, elle te rattache à la nature.
La beauté des
mais
paysages.
C'est vrai que quand j'arrive ici, tu vois, je suis dans ma Porsche, je suis sur mes motos et je me sens pas autant en harmonie avec la nature, même si je vis à la campagne et que je passe beaucoup de temps dans le jardin.
T'es très honnête surtout, en fait, parce qu'en fait, il y a une sobriété en toi que même si on t'imagine au volant d'une Porsche, il y a une sobriété qui est là quand même.
Ouais, ouais, c'est fou, hein. Ma Porsche, elle est très connue, mais on me l'a carjackée. Alors.
Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on t'a fait?
Ah, on me l'a braqué.
Ah ouais. Braqué. Ah, carjacké, c'est quand on te la braque.
On me l'a braqué au calibre et tout. Je l'aurais laissé, j'aurais dit prends la bagnole et tout. Et
bah, donc, prenez, tu l'as déjà dit, prenez tout, bah, les
prenez
gars.
Tout, là,
mais vous savez,
là,
vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Ils avaient des cagoules noires et là, tu fais attends, vas-y, prends-la, laisse-moi tranquille.
Est-ce que, selon les doses justement de cannabis, quand tu fumais ou maintenant même en d'autres...
En dosant mieux.
Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu as envie juste d'être normal? En fait, ça t'aide à être normal ou est-ce qu'il y a des moments où tu as envie d'être défoncé vraiment?
Non, en fait... Moi, comme j'ai cette tendance, quand j'étais petit, je me rappelle, je suis toujours en train de dire... je disais à ma mère, maman, je m'ennuie. Oh. Je m'ennuie. Qu'est-ce que je l'ai seriné avec « je m'ennuie ». Donc ça, c'est le problème de l'hyperactif, bah, qui ne peut pas aller plus loin que ce qu'il a. Et au bout d'un moment, il s'ennuie. Donc si je suis dans des périodes où je m'ennuie, là, je vais aller le chercher. Mais si j'ai des trucs à faire et que je suis toujours à droite à gauche, j'en ai plein de fois, j'en ai pas besoin, donc je le prends même pas, quoi.
Et quand tu es là-bas, justement, tu t'ennuies pas ?
Non, en fait, je m'ennuie jamais parce que là-bas, j'ai vraiment... plus d'activités qu'ici.
Manuel, pas des choses à faire.
Oui, beaucoup plus manuel. Beaucoup plus et que je te prends un camion, et que je te prends une machine, et qu'on va couper des troncs.
T'as des chevaux aussi.
Et qu'on fait un peu de cheval aussi. Oui, il y a des chevaux. Les fermes, elles ne marchent qu'avec les chevaux.
On a envie de parcourir les plages. On a envie d'être dans ces paysages-là à
cheval.
Oui,
y a tout. Hein, la Patagonie, ça part de la montagne, par le désert, pré-cordillère et la mer. Donc, et une mer qui est pas très... Bah, alors qu'il y a une mer froide, donc tu ne vas pas à la plage et tu ne vas pas te baigner.
C'est vrai?
Ah bah non. Et t'es à 4000 km du pôle sud. Donc, il fait froid. Elle est froide.
Très froide. Parce que moi, j'adore l'eau glacée.
Elle est plus froide qu'au Portugal.
Ok, moi, j'aime beaucoup l'eau glacée. D'accord. Ouais,
ouais. Non, mais c'est bien. Moi aussi, j'aime bien.
Et
c'est
tes enfants sont
quoi.
Là-bas? Non, ils sont
en
France.
Ils sont partout. Ils sont là-bas. Ils sont ici.
Ils sont grands. Ils ont quoi, 22 ans?
28 et 25. Et oui, c'est des grands. C'est des humains. Oui, mais c'est des adultes.
Moi, je veux savoir juste si ça fait le même effet, là, gélule ou autre chose, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, justement?
Alors, non,
plus
ça
ne
fait pas
pareil.
Ouais, ça fait le même
parce
effet.
Parce que la combustion,
mais...
c'est ça qui est dangereux.
Bah,
quand
la
même.
Combustion, elle monte et elle descend vite.
Alors non, mais que c'est la dangereux gélule, aussi pour les poumons et pour la gorge.
Ouais, ça peut. Enfin bon, moi, je n'ai pas de traces de fumeur.
Oui, c'est ce que tu disais, tu n'as pas la
ouais,
trace.
Je n'ai pas les traces de tout ce que j'ai fumé.
Donc, ton cancer
j'ai
du poumon n'a rien à voir.
J'ai des cancers, mais c'est des ganglions ou des tumeurs, mais elles sont toujours pour l'instant isolées. Donc, on ne me raconte pas qu'il y a des traces de toutes ces années de fumette. Mmh. Mais c'est issu d'un cancer du poumon, ça peut être issu de ça. Donc, il n'y a pas de problème, on ne fume plus. Mais c'est vrai qu'en l'absorbant, en l'ingérant, c'est vraiment un autre voyage. Ça vient plus tard. Par contre, ça dure plus longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir le doser. Et,
oui, il ne faut pas se dire, merde, il n'y a rien, j'en reprends.
Ah oui, non.
Sinon, tu es fini.
Mais
tu mets
du
c'est
temps.
Comme le space cake, c'est ce que m'est arrivé.
Exactement.
C'est ce qui m'est arrivé.
Le space cake, c'est violent parce que d'abord, tu le manges comme un gâteau.
Oui, j'étais
là. Et puis, ça t'envoie un truc et ça, dans l'estomac, ça envoie beaucoup plus fort. Et donc, tu peux vraiment et te retrouver à gerber ou te faire des vrais blancs, aller t'allonger.
C'est un psychédélique, moi, je trouve, en
ouais,
space cake.
Ça
vraiment.
Peut.
Moi,
j'ai
fait des morphings, j'ai l'impression d'avoir voyagé dans d'autres mondes.
Ah oui.
Vraiment.
Ça provoque des choses, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à le gérer. Et pour pouvoir apprendre à le gérer, il faut l'encaisser. Et ceux qui ne l'encaissent pas, je pense qu'il ne faut pas qu'ils s'amusent à vouloir abuser de ça parce que ça va leur faire du mal. Alors que quand quelqu'un l'encaisse et se retrouve pas mal, tu dois pouvoir après continuer ton expérience jusqu'à ce que tu trouves ce qui te convient le mieux et de la meilleure manière.
C'est ça que tu conseillerais alors?
Pardon ?
C'est ça que tu conseilles aussi un petit peu aux gens. Enfin, t'es pas en train de prôner l'utilisation.
Non, je fais pas. On a toujours l'impression que je fais l'apologie. Ma femme, elle m'engueule tout le temps en me disant « Mais tu fais l'apologie ?» Je dis « Je fais pas l'apologie, mais je dois être honnête avec ce que ça me provoque. Tout le monde n'est pas comme moi. Et donc, à partir de là, tout le monde n'a pas les mêmes réactions. Mais si quelqu'un a ce truc un peu tendu, un peu hyperactif et que ça le calme, bah, ça peut peut-être l'aider à découvrir d'autres choses en lui et lui permettre de tenir, d'avoir une entreprise et de la gérer correctement avec même plus de vision que juste un gestionnaire d'entreprise. Donc, mais on n'est pas très très nombreux, hein. J'en ai pas rencontré des kilomètres, hein, qui fonctionnaient comme je fonctionne.
Ah non, carrément pas. Il y a quand même un passage que j'ai raté dans mes questions, mais c'est vraiment ce passage-là où quand même il y a un moment donné où tu bois. Quand tu te mets à boire parce que ça va pas, tu vas quand même jusqu'au bout aussi. Enfin, tu vas jusqu'à être...
Je suis un scorpion, moi, au bout d'un moment.
Hôpital.
Ah bah oui,
trou
oui,
dans
bon.
Le bide, j'ai lu.
Oui, trou dans le bide, oui. Mais vodka, une grosse nuit à la vodka, et quand mais tu prends beaucoup de vodka...
Nuit.
Si, en une... Bon, à mon avis, j'ai somatisé tout un truc, et cette nuit-là, la vodka a fait exploser,
a perforé
l'histoire. Mais c'est vrai, cette cuite à la vodka, elle était... Mais j'ai pas rebu de vodka depuis. Hein,
et c'était pourquoi? C'est un chagrin d'amour?
Ah oui, oui.
D'amour?
Il oui. Y a que l'amour qui peut te provoquer des choses comme
ah
ça.
Ouais.
mais bon, voilà, c'est une expérience, encore une expérience de vie.
Et l'alcool, et avec du coup, t'as pas bu plus que ça dans ta vie?
Moi, l'alcool, en vieillissant, je l'apprécie un peu plus, mais je l'apprécie plus à travers le vin ou alors quelques cocktails avec de la tequila, des choses comme ça. Le problème, c'est qu'en vieillissant aussi, je la sens pas pareil. Donc je bois, je sens rien et ça vient après. Et c'est pas terrible. Parce que tu vas te coucher, et puis d'un seul coup, au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu dis, putain, mais c'est quoi ça? Ça, c'est pas bien, je suis pas bien. Donc l'alcool, et ça a une tendance aussi à te faire des aigreurs d'estomac, à te
surtout
brûler.
Surtout la tequila.
Ça peut, oui, oui. Donc,
bon vin,
l'alimentation, les bons vins, ça marche toujours bien.
Les crevettes, donc ça, j'ai vu, les concerts, ça, c'est super.
Ouais, c'est l'alimentation où tu peux pas cuisiner et où tu as besoin d'un certain nombre de protéines.
Nourrissant, qui... En fait, c'est vrai qu'après les concerts, on n'a pas envie d'un truc lourd.
Bah, hein. Moi, 2 heures après, j'ai faim, mais je mange pas avant. Tu vois,
ouais,
je mange
pareil.
À 4 heures, je mange des pâtes à 4 heures pour le sucre lent, et puis à 9 heures, je démarre, à 11 heures, je sors, et à 1 heure du matin, je mange mes crevettes.
T'es un couche-tôt ou couche-tard, toi?
Je deviens un couche-tôt. Enfin,
c'est quoi,
oui.
Couche-tôt?
Je vais au lit vers 10h30, 11h.
Oh, ça me rassure. Moi, je m'endors à 22h22 et je me lève à 5h55.
Ah oui, t'as les numéros
non,
en plus, t'as la numérologie
mais...
qui
non, mais ça
qui
se fait comme ça.
Comme ça.
Ah ouais, ça se fait comme ça.
Et 5h55, ouais, c'est tôt. Ce matin, ce matin, je me suis réveillé à 6h comme une fleur.
Bon, pour terminer, tu dis que c'est une des rares choses avec laquelle tu ne plaisantes pas. En plus, il y a une histoire de déséquilibre des cordes vocales. Il y a une corde vocale différente.
Un peu
plus musclée. Si on te disait, mais comme ça, attention, hein, c'est vraiment une supposition, que le THC va t'empêcher de chanter et que tu dois arrêter. Donc, c'est le THC ou le chant. Qu'est-ce que tu choisis?
Ah. Écoute.
Ouah, c'est chaud.
Oui, mais en même temps...
C'est très bon.
Non, mais à la limite, je me disais...
Il est en train de m'embrouiller, il va me dire, je vais chanter. Non,
je vais chanter. Si je dois chanter, je ne fume pas pendant que je prépare tout ça. Et quand j'ai fini, je peux me dire, c'est bon, allez, je me remets au THC.
Tout est une question de dosage. Donc, Florent chanterait pendant 2 ans, prendrait du THC pendant 2 ans. Chanterait pendant 2 ans.
Par exemple,
c'est
je me suis dit, peut-être à 70 ans, je me remettrai à fumer la pipe. Tu vois, il me restera 10 ans, 15 ans, 20 ans grand maximum. Il y a un moment, tu commences aussi, vous n'y êtes pas encore, mais il y a un moment, quand tu passes la soixantaine, tu réalises bien que tu es plus proche de la fin que du début.
Moi, je suis pas
et que tout ça a une... Et oui, mais bon...
On a interviewé Claude Lemel, tu vois qui c'est? C'est un grand auteur.
Claude Lemel, oui,
c'est un
auteur.
Régénie,
un grand
Sardou,
auteur,
tout ça. Et en fait, il buvait... Il a beaucoup bu, mais de moins en moins.
Bah oui.
Il a arrêté de boire à 75 ans. Alors que nous, tous les... Moi, je suis toujours en train de me dire, je me remettrai à picoler à 75 ans. Moi, j'ai dû arrêter la drogue.
Ouais, mais tu tiens moins bien. Ah oui, toi, t'es devenu...
Moi, j'étais cocaïnomane.
Toi, il te reste plus que le sexe.
Ah bah, encore, franchement, ça me fait un peu chier.
Il te reste plus que le rock'n'roll.
Ah bah non, moi, c'est la philo, c'est bon, et les interviews que je prépare. Moi, quand je reçois des invités comme toi, c'est exactement comme si soit je me droguais, soit j'avais un orgasme. Donc, tu vois, c'est très bien pour moi.
Attends, la philosophie, ça t'emmène loin aussi. Hein, donc,
bah oui, Spinoza.
Et ça traite de tout. Hein.
Spinoza m'a guéri, moi. Donc, tu vois.
Bon, donc ça, c'est bien, mais c'est vrai qu'à un moment, tu encaisses tellement moins que je peux le comprendre, hein. Même si tu peux avoir envie.
Ça sert plus à rien, quoi.
Bah, ça te met mal. Tu te mets à boire et tu vas te coucher, puis tu dors mal, et puis t'es ballonné, et puis il y a un moment, tu finis par avoir une lecture interne de toi qui fait que, en vieillissant, tu ressens, là tout à l'heure, je sors et j'ai un point au milieu de ma vue. Et j'ai déjà entendu dire, attention, quand il y a ce truc-là et tout, il faut faire gaffe, mais je ne sais plus pourquoi. Mais d'un seul coup, je regarde et à un moment, je regarde trois numéros, celui du milieu, je ne le vois pas. Je dis, mais je le regarde. Alors là, ça va un petit peu mieux, mais j'ai commencé la matinée au volant avec ce phénomène en me disant, il faut que j'appelle mon oncologue et que je lui dise, bon, dernièrement, je suis un peu spécial. Et là, il vient de m'arriver ce truc-là. T'en peux plus, il y a toujours un truc.
Moi, je trouve ça triste qu'il faille attendre la fin de sa vie pour que notre corps nous parle et nous dise qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais bon, en tout cas, on a quand même fait bien le tour. Moi, je sais comment ça allait, la santé.
Oh bah oui, ça va, et
bien.
Toi
bah, moi aussi, ça va, en rémission.
Mais bon, tu prends plus rien et tu bois plus.
Bah, ouais, j'ai arrêté de fumer aussi la cigarette. Ouais,
mais ça,
je suis
la
bien
cigarette,
obligée,
moi,
hein.
Je l'ai arrêtée il y a 30 ans et elle me manque pas,
je
la cigarette.
Je peux pas boire, tu sais, moi, si je bois, en fait, ça finit demain midi avec 3 grammes de coke. Non, c'est la coke le problème.
Ah, tu deviens. Ah oui, la coke, ça peut avoir. On peut avoir cette addiction.
C'est lié, tu sais,
les
je
filles,
suis.
Hein, vous
coca
aimez...
éthylène.
Ouais, vous aimez bien ça, quoi.
On aime bien la coke.
Ma première histoire d'amour était une femme, elle est morte il y a pas longtemps, Patricia Millardet, et elle a toujours eu ce problème-là. Elle a vraiment toujours aimé. Alors, elle est morte à 62 ans d'un arrêt cardiaque.
Parce c'est pas trop grave de mourir. Moi, si je meurs,
ah bah,
tôt, je m'en
mort,
fous.
La mort, cela n'est rien.
Non, mais on s'en
mais
fout.
Mais vieillir.
Non, voilà, vieillir et puis être
ça,
malheureux.
C'est compliqué.
Être malheureux,
et
c'est
bon,
tout.
On est d'accord. On est
moi,
d'accord.
Là, aujourd'hui, je me rends compte, on dit toujours dans les groupes de dépendants anonymes que je fréquente, on dit un dépendant, c'est quelqu'un qui va beaucoup mieux quand il ne se drogue pas. Et bien, c'est vraiment mon cas. C'est-à-dire que je vais beaucoup mieux depuis que j'ai tout arrêté. Donc, je ne vais pas reprendre comme une conne. C'est ridicule.
Ouais, non, puis en plus, on te voit en forme, on te voit pas comme une déchirée, quoi.
Ah bah, j'ai été déchirée. Je pense que tes amis que tu dois connaître, il y en a beaucoup qui m'ont vu déchirée.
Ah,
moi, je t'ai jamais croisée.
Non, moi, j'ai jamais
croisée, mais on m'a beaucoup. Ah ouais, on a beaucoup raconté des choses et on m'a beaucoup vu malheureusement dans les afters de concerts, des trucs. C'est vrai que je me souviens de rien et que tout le monde se souvient très bien.
Ah ouais, donc tu te mettais minable.
Ouais, c'était mon truc.
Ouais,
mais c'est pas grave, c'était mon truc.
Après, tu sais, l'humain, il a besoin aussi. À un moment, il aime chercher l'ivresse.
J'avais besoin de ça.
Il aime se déjanter. T'as besoin de soupapes. Selon la nature que t'as besoin de plus ou moins de soupapes. Et de à un moment,
exactement,
d'extérioriser. Et puis, c'est des périodes de sa vie aussi. Donc, t'as la chance d'avoir pris conscience de ça. Et puis, de dire, OK, là
chance.
Maintenant, je vais nettoyer ça. Mais parce que...
Et je suis aidé, moi aussi.
T'as fait des rencontres ou t'as compris des choses, donc parce qu'après si t'as pas le cerveau, le mental qui te permet d'accéder à d'autres niveaux de réflexion, bah tu y passes, hein.
T'évolues. En fait, si tu ne grimpes pas de niveau de conscience, tu vas y passer.
Ah ouais,
c'est ce que tu as dit, c'est très,
mais bon,
très justement
si
dit.
T'es parti au Pérou pour te faire une expérience et aller faire un protocole différent et pour justement
entre
avec
autres,
cette arrière-pensée de t'aider à solutionner peut-être ton problème, je sais pas si tu l'avais avant ou si t'avais déjà réglé ton problème.
Moi,
de partir faire une initiation, mais
j'ai fait des hauts et des bas et de toute façon moi je me considère jamais comme guéri parce que comme
tout
tous les
arriver.
Addicts, ah oui c'est déjà arrivé, hein, je veux dire, j'ai déjà, moi c'est pas comme si j'avais arrêté, plus jamais touché.
Ouais.
C'est pas moi, c'est pas mon cas. Mmh. Moi, j'ai eu différentes rechutes depuis 2017 où j'ai arrêté. J'ai eu des 3 ans, 1 an. Ça m'arrive régulièrement de vouloir aller voir si je peux toujours y aller ou pas.
Ah ouais.
Et là, ça fait un bon moment que je me dis, bon, là, non. Et puis notamment, bon, quand même, ce cancer, moi aussi, du sein, m'a fait énormément évoluer.
Si t'as chopé un truc,
en plus. Moi aussi. Moi, je considère pas que ça soit à cause de tout ça. Je suis beaucoup plus fataliste que ça.
Ouais, ça arrive comme ça. De toute façon, on contrôle pas ce truc-là. Mais si t'as aussi vécu cette expérience et que t'es rentré en chimio et en choses comme ça,
ça m'a beaucoup appris, moi, le cancer.
Ça nous fait, oui, bah oui.
Ça a été un maître.
Mais bien sûr.
Un maître spirituel,
quand
ce cancer.
Quand on ne veut pas le subir et qu'on veut le comprendre et qu'on veut l'affronter,
on l'accompagne
ça
aussi.
T'apprend des choses, mais vraiment. Mmh. Et puis ça provoque des trucs, ça te recadre. Il y a les enfants et puis le cancer qui peuvent changer ton destin.
C'est comme on dit, il y a deux choses qui ne mentent pas. Les enfants et les leggings. Et on va vous laisser là-dessus. c'est un très beau moment pour moi. Et pas parce que tu es Florent Pagny. Ce qui est très beau pour moi, c'est d'avoir découvert Florent Pagny, que je connaissais comme beaucoup de gens connaissent. Et encore, tout le monde pense que Rose connaît des chanteurs. J'en connais pas beaucoup. C'est pas mon milieu du tout. Je fréquente pas du tout les chanteurs. Je connais un peu Pascal. Mais franchement, c'est une découverte pour moi. Et je vais lire ton livre avec un grand plaisir. Donc, Pagny par Florent.
C'est un pavé, hein. Même ma copine, elle écrivait beaucoup. J'ai aussi une vie un peu remplie quand même.
Je lis 3 livres par semaine, t'inquiète pas, ça va y passer.
Ah bon, bah ça va, t'es habituée, t'es une lectrice.
Est-ce que t'as prévu de le faire en livre audio ou pas? Parce que je lis des livres audio.
Écoute, ma femme me dit.
Ouais, toi t'es en mode Columbo vachement.
Ah
hein.
Mais oui, parce que j'écoute ma femme, elle a toujours raison.
Elle a toujours raison.
Et elle me dit, tu devrais faire le livre parce que par exemple, mes enfants n'ont pas lu le livre.
Alors attends, ta femme, elle dit aussi un truc très important. Elle dit que ta voix parlée n'a pas le même charisme que ta voix chantée.
Oui.
Donc, c'est pas toi qui vas le lire, le livre.
Ah oui, bah oui, ça dépend.
Attention, il faut que tu trouves un acteur qui a une bonne voix, parce que ta femme, elle va pas être contente sinon.
Ah, alors, voilà, maintenant tu mets un autre handicap, parce que je vais me dire, si jamais je le fais, bah je le fais, mais c'est vrai que...
Et c'est long à lire, hein.
Ouais, c'est long.
Même quand c'est ta vie.
Mais bon, à la
vie.
Fin, ça deviendrait comme un interview, quoi.
Ouais.
Donc, à la fin de l'interview, là, tu vas le passer, ça sera ma voix parlée, quoi.
Et moi, j'adore.
Oui, non, mais bon, non. Ah, ma femme, elle me dit que j'ai pas une bonne voix parlée comme acteur dans les films.
Ah oui.
C'est là où elle me dit, non,
c'est
dans
pour
les
ça
films,
que ça n'a
quand
pas
tu
marché.
Parles, ça fait. T'as pas le bon charisme. Ah bon.
Elle est
quand
super,
tu chantes,
ta
oui,
femme.
Mais quand tu parles. Et bon, c'est vrai que quand je suis dans ma conversation avec ma nature, ma personnalité, et avec un interview où d'un seul coup je m'exprime comme avec n'importe qui, où j'oublie les micros.
Ça a été le cas, là, un petit peu?
Mais moi, je suis toujours comme ça, je fonctionne toujours comme...
C'est pas moi spécialement, quoi. C'était pas mieux que les autres, quoi.
Et pourquoi t'as besoin besoin
d'avoir... Mais t'as bien vu, je ne me drogue plus, je ne bois plus. Est-ce que je peux avoir des compliments, au moins?
Écoute, le compliment, c'est que c'est une conversation.
Ouais, c'était
donc,
cool.
Comme t'arrives à faire une conversation, c'est que t'as le bon courant pour... En tout cas, avec moi. Mm. Et c'est pareil, t'as de la liberté dans... tu vois, tu commences pas à réciter ce que tu as écrit. Même ta présentation, elle n'était pas lue, quoi. Elle était un peu plus sentie. Donc, à un moment, tu t'exprimes comme tu es. Et donc, entre je t'ai dit bonjour, je rentre, et puis derrière le micro, je n'ai pas vu une autre personne. Donc, tu peux te rassurer.
Ah bah c'est bien.
Ça va.
Eh ben merci beaucoup, Florent. C'était un très bon moment.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est bien de pouvoir être fluide dans sa conversation. Et donc, bon, et puis moi, t'as vu, je suis super bavard, donc je parle beaucoup.
Ah ben,
beaucoup.
On est deux. Elle n'en peut plus.
Non, mais ça va, elle enregistre après, il faut qu'elle réécoute et qu'elle monte.
Non, après, il faut qu'elle monte.
Oui, et puis elle ne pourra pas tout mettre.
Non, elle ne pourra pas tout mettre. Et puis surtout, elle va me dire, tu l'as coupé la parole, tu lui as coupé la parole.
Dites-vous quand même au revoir.
Je vais te dire au revoir.
Comme hier, ils n'avaient pas de faim.
Et ben,
on n'avait pas de
faim. Mais c'est ça qui est bien, il n'y a pas de faim.
Bah, tu vois.
C'est sans fin, Florent.
Elle est philosophique. Donc,
on
part vite après dans des lectures qui nous emmènent encore à un autre niveau. Mais
je dis au revoir, Marjorie, pour te faire plaisir. Je dis au revoir à Florent. Au revoir, Florent.
Eh bien, au revoir, Rose. Et puis, à une prochaine.
À très bientôt, j'espère.
Ça marche.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDEC anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradictions.